Bon midi tout le monde et bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, le rendez-vous du midi. Évidemment, on va faire le caucus avec Antonine Iaccarini dans quelques instants. Vous interagissez au 418-971-1021. Vous pouvez nous écouter également via la web radio au blvd.fm. Les meilleurs moments vont se retrouver à la suite de l'émission. Et également, n'oubliez pas de télécharger notre application sur App Store ou Google Play Store. C'est BLVD 102.1. On est aussi sur twitch.tv/BLVD/FM. Donc, on a eu une soirée extraordinaire vendredi. On va revenir là-dessus avec Antonine Iaccarini également. Gala de lutte de la NSPW, organisation de main maître de mon chum Steve Boutet, qui est tout simplement exceptionnel avec sa fédération de lutte. Je lève mon chapeau à 100%, même à 200%. Yannick Marceau, mon collègue du matin, l'animateur de Marceau le matin, qui se donne corps et âme sur le ring, mais surtout dans l'organisation de cette soirée-là. Yannick est quelqu'un qui a les valeurs à la bonne place. Il a justement bénéficié des paniers de Noël quand il était plus jeune dans sa famille. Il redonne à sa communauté de façon phénoménale. Ça va être près de 30 000 $ qu'on va avoir amassé pour la bouchée généreuse, parce que sur le 27 000 annoncé vendredi, il reste encore justement des montants accumulés. Alors, c'est tout simplement exceptionnel. Sur blvd.fm, justement, vous pouvez retrouver l'entrevue qu'on a faite ce matin avec Marie-Pierre Gravel. Et la bouchée généreuse, là, vous vous présentez là. Ils cherchent des bénévoles pour leur distribution à chaque jeudi pour la distribution de Noël qui sera le 24 décembre. Si vous voulez venir le faire avec moi, moi, je m'en vais là tout de suite quand je vais terminer l'émission à 10h du matin pour aller faire du bénévolat avec ma conjointe Val, avec nos enfants. Donc, venez en grand nombre. Et ils sont également, à l'heure actuelle, en train d'amasser des dindes pour le réveillon de Noël. Hey, c'est pas rien, hein? On a un objectif de 2000 dindes. C'est l'enfer comment...
Ça fait de la dinde.
C'est l'enfer comment les gens ont des besoins alimentaires à l'approche de cette période des fêtes. Fait que, fort simple comme geste, vous allez dans votre épicerie de quartier, vous achetez une dinde, vous débarquez à Boucher Généreuse du lundi au vendredi entre 8 à 4, il y a quelqu'un dans l'entrepôt, vous lui donnez la dinde, dites-leur, « Hey, c'est Jeff Fortin à Boulevard qui me dit de venir vous porter une dinde, c'est Yannick Marceau, c'est Denis Gravel, voilà votre dinde, il faut remplir le congélateur de 2000 dindes, les amis, et on a besoin de vous. » Donc, faites un petit geste. Moi, c'est sûr, cette semaine, je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais acheter une dinde, m'en vais porter ça à Boucher Généreuse. Merci, bonsoir, ça va être fait, et je vais pouvoir contribuer justement à ce que les personnes qui sont en situation de défavorisation et un réveillon de Noël à la hauteur de ce qu'est un réveillon de Noël. Ils méritent d'avoir le même réveillon que Noël, Anto, que moi, toi, Mathias, Pascal, CV, tout le monde ici va bénéficier.
Absolument. Puis il faut rappeler aussi, la bouchée généreuse, il y a une statistique, moi, qui m'a frappé, c'est qu'il y a 40 % de leur clientèle, ce sont des enfants.
Oui.
Et justement, il y a des moments dans l'année, tu sais, des fois, on se dit, ah, pourquoi on donne plus à Noël, etc. C'est vrai que c'est important de donner à l'année, mais il y a quand même des moments dans la vie d'enfants, notamment, qui sont plus défavorisés, où les inégalités se font ressentir encore plus fortement, où ils se rendent bien compte qu'il y a un manque à quelque part, qu'on voit d'autres familles, peut-être, ou on voit à la télévision, ou... Hey, c'est pas comme ça chez moi exactement. Donc, ce fait-là d'avoir un Noël un peu plus normal, de pouvoir fêter, de pouvoir manger une dinde en famille, ça fait toute la différence. Puis évidemment, on ne donne pas qu'à Noël, hein. On peut donner à l'année, mais c'est un moment fort.
Oui, je me souviens, je vais avoir 46 ans le 29 décembre prochain. Quand j'avais 20 ans, j'ai organisé le Noël au Patro Laval. Et j'ai toujours resté marqué de ça. J'ai un couple de parents qui est venu me voir et qui me dit... « Hey Jean-François, merci parce qu'on donnait un cadeau de Noël à chaque enfant. Merci parce que ma fille, c'est le seul cadeau de Noël qu'elle va avoir cette année. » Parce que les parents n'avaient pas les moyens de faire des cadeaux. Puis là, c'était une tuque bien simple du Patro Laval. Là. C'était rien d'extravagant. Là. Mais au moins, elle déballait un cadeau comme ses autres amis dans cette soirée-là.
C'est ça. Ça donne une normalité, ça donne du bonheur. Moi, il y a un autre organisme, puis je veux pas faire de l'ombrage, je suis généreuse, mais qu'à chaque année, on donne ces Renault jouets.
Bien sûr!
Qui aussi, là, pour plusieurs enfants, ça va être le seul cadeau qu'ils vont recevoir à Noël. Ça leur donne une impression de normalité et ça donne un sentiment aussi de soulagement pour les parents qui aimeraient faire plus pour leurs enfants dans ces périodes-là où les inégalités l'été se font encore plus ressentir. Puis c'est sûr que quand on pense à nos enfants, à nous, là, qu'ils reçoivent, je sais pas moi, 7, 8 cadeaux à Noël, mm-hmm. tu te dis tabarouette, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas.
Ah, vraiment.
Faut partager.
Oui, faut partager, faut prendre soin des autres dans cette période-là, du temps des fêtes, notamment nos enfants. Il n'y a pas de doute. Puis la bouchée généreuse aussi, ben, ils vont donner une coupe de bonbons puis de cochonneries.
Ben, oui.
Que les enfants se gardent dans le temps des fêtes. Qu'il y ait du fun, let's go. Puis on parlait justement avec Marie-Pierre Gravel, c'est disponible sur le blvd.fm ce matin, de la honte que les gens ont de se présenter dans une banque alimentaire.
Poser le geste, c'est très, très difficile. Moi, j'ai fait plusieurs collaborations avec les banques alimentaires du Québec. Et vraiment, là, j'entendais des fois des gens qui disaient « Ah, des fois, il y a des gens qui vont dans les banques alimentaires, ils n'ont même pas besoin, là, ils arrivent en auto, il y a un auto de l'année. » Puis, hey, sérieusement, oubliez pensez-vous ça. Que c'est facile d'aller faire la file pour aller chercher de la nourriture
Exactement.
À la banque alimentaire? Au contraire, il y a des gens qui en ont besoin et qui n'osent pas le faire et les besoins sont énormes.
Durant la COVID, j'ai fait justement avec le patron Charlebourg, j'ai géré le comptoir alimentaire là-bas, puis j'étais sur le terrain avec les bénévoles, donc j'allais porter les sacs, parce que durant la COVID, les gens ne pouvaient pas entrer dans le patro. Donc, on allait porter les sacs à l'extérieur, justement. Et là, tu sais, j'ai vu plein de choses. Là. Des gens qui venaient de perdre leur emploi, qui se retrouvent complètement démunis. Qui disaient, écoute, j'ai une maison, deux chars, mais là, tu sais, je vais sûrement avoir mon emploi en restauration.
Il passe un bout
mais
difficile,
quand
c'est passe peut-être
un
temporaire.
Bout difficile, exactement, temporaire. Des gens, justement, qui n'osaient pas venir chercher à la banque alimentaire, puis c'était le frère ou la sœur qui venait chercher pour dire, hey, écoute, j'ai dit à ma sœur, viens avec moi, viens-t'en, je vais te présenter les gens du patro, ils sont bienveillants, tout ça. Mais la personne ne voulait pas y aller, elle avait trop honte.
Des fois, les gens regardent par terre, ils sont gênés. Faut comprendre aussi que la pauvreté a plusieurs visages, puis il faut éviter de juger. T'sais, par exemple, de dire, il va chercher des paniers alimentaires, mais il y a une auto. Mais peut-être que son seul moyen d'avoir un gagne-pain, cette personne-là, c'est de saigner à blanc pour payer son auto.
C'est-tu quoi? C'est en plein ça, parce qu'on avait au-dessus de 50% des gens qui venaient à la banque alimentaire qui ont un emploi.
Ben oui,
mais
c'est
un
ça.
Emploi, tu sais, à 16, 17, 18 piastres de l'heure, mais le besoin d'une voiture pour se déplacer parce que c'est dans des horaires atypiques. Alors, mais le paiement de la voiture, le paiement du loyer, oublie ça, il n'en reste plus d'argent au bout du mois pour te payer de la bouffe.
Il n'en reste plus pour manger ou avoir des aliments de qualité. T'sais, si vous aviez des enfants, vous passez un bout difficile et que de vous payer des fruits puis des légumes, c'est hors d'accès pour vous. T'sais, honnêtement, je pense que notre société, on est capable d'accepter qu'on va partager pour s'assurer que les enfants aient des aliments de qualité aussi.
Oui, bien, ça fait partie là, de toute cette problématique-là. Côté aliments, on le sait, les familles qui ont moins d'argent, ils ont moins les moyens d'aller chercher ces aliments de qualité-là, puis souvent, ça se répercute parfois en problème de santé chez les jeunes, chez les enfants.
L'obésité précoce, le manque de concentration à l'école parce qu'on a soit le ventre vide ou pas des aliments sains à l'intérieur
de notre
corps. Donc,
ça répercute les inégalités puis ça te met des obstacles dans ta vie qui vont peut-être t'empêcher d'avoir les réussites que tu aurais pu avoir avec tes capacités, mais que finalement, tu n'as pas eu accès à des bons aliments, tu n'as pas pu aller à l'école avec un bon repas dans ton ventre. Donc, ça aussi, c'est des inégalités importantes.
327 $ hier, l'épicerie pour nous cinq à la maison.
Écoute.
Puis, Val cuisine.
Oui, oui,
Valérie,
c'est ça. Vous n'avez pas acheté du tout fait. Là.
Non, exactement. Mais c'est sûr qu'on achète des bons aliments pour nous, des bons aliments pour nos enfants. Fait qu'imagine la mère monoparentale de trois enfants qui travaillait à 18 piastres de l'heure.
Je veux dire, pour une famille normale, c'est rendu faramineux, là, le prix de l'épicerie. Je veux dire, en tout cas, moi, personnellement, récemment, là, le prix du poulet, les poitrines de poulet, je n'achète plus de poulet. Je veux pas, je roule sur un budget étudiant. Je pense que la majorité des personnes ont passé par là. On a moins d'argent, on a moins de budget. Mais par choix, je regarde le prix du poulet puis je me dis, je vais m'acheter de la viande en rabais parce que le poulet, pour moi, il est rendu trop cher.
Ben, même nous, là, on a deux bons emplois, moi et Val. Mais tu sais, on a une maison à payer, on a la voiture, hier, c'est pas des poitrines de poulet, là, c'est des hautes cuisses de poulet qu'on ajoute pour mettre dans notre salade.
Tu cours les spéciaux. Là.
Ben oui, mais tu cours les spéciaux, t'as pas le choix.
Jeff,
là, on s'est fait deux gros plats de pâté chinois. Mais on s'est fait Val a fait deux gros plats de pâté chinois. Je vais quand même y donner le mérite. Avec du steak haché en rabais. Là. On n'a pas le choix, là, parce que sinon, oublie ça. L'épicerie va être quoi? 450, 480? C'est impossible.
Mais ce qu'on réalise, on parle pas de bons steaks, de beaux morceaux de viande. Là, on parle de poitrines de poulet qui, quand sont pas en spécial, coûtent trop cher pour nourrir une famille complète. Je suis allé à l'épicerie, c'était 4 poitrines de poulet, c'était peut-être 22 piastres. 20-22 piastres. Pour une famille de 5 enfants, t'en as pour un repas, ça.
Ben, c'est ça.
ça s'en vient ridicule. Fait que, y a rien de honteux à avoir besoin d'aide alimentaire, vraiment pas, parce que c'est pas nécessairement de votre faute. C'est juste que l'économie actuelle, ben, elle est très, très, très difficile.
Ça a
surtout
frappé de plein fouet l'inflation dans les dernières années. Puis il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu venir. Puis, veut pas, on prend nos habitudes financières et de consommation quand on part en appartement. Puis il y a comme un contexte financier et économique à ce moment-là. Puis après ça, c'est difficile de changer nos habitudes. Tu sais, par exemple, là, je sors un peu de l'aide alimentaire, mais pour rentrer dans le crédit. T'sais, moi, par exemple, quand j'ai commencé ma jeune vie adulte, le crédit, les taux d'intérêt, c'était 1 % 2
%. Non, ça, c'était facile t'sais, au
bout. Il faut complètement changer nos habitudes. Après ça, faire l'épicerie. Moi, je regardais pas beaucoup les prix là, dans ma vingtaine, là, puis au début de ma trentaine. Hey, maintenant, là, chercher des spéciaux, ça faisait pas partie de mes habitudes du tout, mais il faut s'adapter
maintenant,
parce que
regardes.
L'économie change.
Marie-Ève qui nous écrit, tu disais Food Hero Gang. Oui, en effet, je l'utilise, moi aussi à la maison, l'application Food Hero qui permet justement souvent d'avoir de la viande arabique et congelée, qu'on décongèle et qu'on peut manger. Merci Marie-Ève pour le petit truc. Mathias, on parlait beaucoup de jeunesse. Malheureusement, là, il y a une nouvelle complètement c'est déstabilisante ouais, là, qui est sortie concernant là, les coups de feu dans Bellechasse.
Écoutez, c'est dur de mettre des mots là-dessus, là, mais une nouvelle très triste. Vraiment, là, on parlait d'une personne mineure qui était morte suite à des coups de feu dans Bellechasse et d'une autre personne mineure qui était blessée. Eh bien là, on a eu des détails sur cette histoire-là. On parle d'une fillette de 11 ans qui est malheureusement décédée. Là, ça donne des frissons vraiment. Là. C'est le genre de nouvelle qu'on veut jamais entendre. Donc, et son frère de 15 ans qui a été blessé justement à la suite d'un événement impliquant une arme à feu. On n'a pas les détails de la situation, mais de ce qu'on comprend, c'est une arme qui appartenait à la famille des deux enfants atteints par des coups de feu. Les parents qui n'étaient pas sur place, qui étaient absents de la maison lors de l'événement. Donc, est-ce que c'est une arme à feu qui a été mal sécurisée et par la suite, les enfants ont pu s'en emparer? Ça se pourrait, mais malheureusement, c'est une fillette de 11 ans qui a succombé à ses blessures.
On envoie toutes nos sympathies à la famille, aux proches de la famille. Franchement, c'est une nouvelle qui est très déstabilisante, comme je disais, puis qui amène énormément d'émotions.
Puis, c'est un bon rappel aussi, même si on ne connaît pas les détails, quand on a des armes à feu à la maison, de les ranger de manière sécuritaire. Les accidents peuvent arriver. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Ouais. On n'a pas d'informations, mais c'est toujours un bon rappel pour tout le monde.
Oui, évitez tout drame, s'il vous plaît, en prenant bien soin là, de l'entreposage de vos armes à feu. On va passer à un drame qui est peut-être un petit peu plus analytique et comique. C'est celui du Parti libéral et de QS dans le caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Bon, Anto, changeons-nous les idées avec la politique, parce qu'on n'a pas eu de break en fin de semaine. T'sais, nous autres qui aiment la politique, là, hey, on était sur nos téléphones.
Écoute.
Là, Vincent Marissal a donné une conférence de presse. Marissal, à tout le monde en parle. Pablo, à tout le monde en parle.
Ça arrête pas. Hey, moi, je me suis mis des objectifs de moins faire de temps d'écran sur mon téléphone.
Ouais. Hey, mais là, tu as eu de la misère en fin de semaine.
C'est un échec complet et c'est de la faute directement au Parti libéral et à Québec solidaire. Ben oui, Pablo Rodriguez qui était à Tout le monde en parle hier. Il avait déjà fait une série d'entrevues vendredi, il avait eu une conférence de presse également, donc on se doutait qu'est-ce qu'il allait dire, mais des entrevues un peu plus longues. J'ai envie de dire aussi, c'est un contexte souvent qui est à l'avantage de l'invité. Hein. C'est pas des hot seats, là, comme on dit en bon français.
Oh, non, tout le monde en parle. Les gens viennent s'asseoir, répondre aux questions, mais on vient pas pousser très loin dans le contre-argumentaire.
Non, puis dans une bonne stratégie de communication où on essaie de changer les perceptions, où on essaie de, disons, changer la direction de la trame narrative là, dans nos relations publiques, souvent tout le monde en parle, ça va être à l'avantage des invités. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que Pablo Rodriguez fasse une performance éclatante.
Exactement. Ça n'a pas vraiment été le cas, on pourrait y revenir, mais avant tout, Antonine, moi, je veux t'entendre ça. Ouais, mais écoutez, je ne sais pas, moi, pourquoi Geneviève Reims a été congédié. Hey, là, on est rendu à dimanche soir avec Tout le monde en parle. Ça a éclaté lundi. Y a-tu moyen que le chef ait des informations, s'il vous plaît?
Oui, puis ben, est-ce que c'est de la faute de Marois Risky? Est-ce que c'est la candeur et, le manque de leadership de Pablo Rodriguez qui crée cette situation-là? On le sait pas, puis tout le monde a un peu son opinion. Et j'ai envie de dire aussi, Dépendamment de ton niveau de sympathie pour les libéraux, pour Pablo Rodriguez et pour Marois Risky, ça affecte l'opinion des gens. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de non-dits puis beaucoup de secrets, ben les gens sont influencés dans leurs spéculations. Je vois beaucoup de gens qui ont envie de croire que Marois Risky n'aurait pas congédié la directrice de cabinet pour rien, qu'elle devait avoir des raisons sérieuses, qu'elle est incorruptible, qu'elle est droite, etc.
Oui, mais là, moi, je vais te le dire, elle m'énerve dans son silence.
Bon, moi aussi, ça commence à m'énerver, là, cette affaire-là.
Moi, être bien franc, là, tu sais. De la politique, c'est de la politique. Fait que là, à un moment donné, lâchez-moi le juridique, lâchez-moi les mises en demeure à droite, à gauche, aux journaux, 500 000 à Marois Risky, puis tout le kit. Là. On peut-tu faire de la politique, s'il vous plaît? Là?
Bon, avant d'analyser plus en détail l'entrevue de Pablo Rodriguez, je pense que c'est important de dire que Marois Risky a réagi hier en faisant un statut Facebook. À quelques heures...
Ouais, même 45 minutes avant,
45 minutes, de tout le monde en parle. C'est pas bien, bien gentil. On voit que ça continue pour Marois Risky de mener... Ce qui continue d'un peu motiver ses actions, c'est pas nécessairement d'aider son chef ou d'aider le parti. Là. Sinon, elle aurait fait les choses probablement autrement. Donc, dans un message Facebook, elle explique un peu plus les raisons qui motivent son silence. On va dire ça comme ça. On n'a pas appris grand-chose. Mais il y a deux éléments qui m'ont frappée. D'abord, elle dit... Moi, comme employeur, je ne peux pas étaler les raisons de ce congédiement sur la place publique car c'est un enjeu de ressources humaines. C'est ce que tu viens de dire, Jeff. Ouais. En politique, les ressources humaines, ça marche pas comme ça.
Non.
Évidemment que ça allait devenir public, puis évidemment que la réputation de Mme Hinz allait être affectée et elle ne peut pas se défendre publiquement puisqu'on ne sait pas personne de quoi elle est accusée. Donc, je pense que Marois Risky sait très bien que c'est pas juste une affaire de ressources humaines. Et deuxième élément qui m'a frappé dans sa réaction à Mme Risky, c'est qu'elle dit, ben si vous êtes si convaincu que j'ai tort et que Geneviève Hinz n'a rien fait de mal, pourquoi vous la réembauchez pas? Franchement, encore une fois, elle a détruit sa réputation.
Mais c'est ça.
Comment voulez-vous que Geneviève Hinz, présentement, avec en plus des poursuites en cours, c'est judiciarisé maintenant, comment voulez-vous qu'elle se pointe, elle, à l'Assemblée nationale, ce matin ou demain matin, puis qu'elle fasse face à un mur de journalistes parlementaires qui vont, évidemment, parce qu'elle est devenue du jour au lendemain une personnalité publique, bien malgré elle, comment voulez-vous qu'elle puisse se pointer et faire son travail comme si de rien n'était? Je veux dire, ce n'est pas réaliste. Donc, j'ai pas aimé cet argument-là. Puis, de plus en plus, je me demande si Marois Risky avait bien compris la tempête qu'elle allait provoquer en congédiant la directrice de cabinet, sa directrice de cabinet, mais aussi celle que Pablo Rodriguez avait choisie, sans donner de justification publiquement.
En effet. Je veux t'entendre là-dessus parce que ce matin, c'est disponible sur le blvd.fm. On avait Marc-André Leclerc, chroniqueur politique également dans l'émission de Marceau le matin. Et il disait, Pablo Rodriguez a mal géré la situation. Il aurait dû dire à Marois Risky, écoute, je suis pas d'accord avec ça, mais je vais trouver un autre job à Geneviève Hinz à l'intérieur du parti. La prochaine fois, tu m'avises. On reste bons amis en public, puis c'est terminé là. Y aurais-tu dû faire ça?
Mais moi, je trouve que c'est un peu facile, en tout respect pour Marc-André, qui est un super bon analyste, en passant. Là. Puis je me suis posé la question également, est-ce qu'il aurait dû la réembaucher tout de suite, Geneviève Hinz? Puis j'ai entendu plusieurs personnes dire ça. Je trouve que c'est un peu facile de regarder ça a posteriori puis se dire qu'il aurait dû faire ça. On a quand même passé plusieurs jours à se demander qu'est-ce qui s'était passé. Mm-hmm. Et Pablo Rodriguez inclus. Puis là, ça m'amène à te parler de son entrevue d'hier parce que c'est ce qui ressort le plus. C'est qu'on a l'impression, coudonc, il était au courant de rien. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait clairement un conflit de personnalité entre les deux femmes, c'est évident.
Ben oui.
Elles semblaient ne pas s'entendre sur la manière dont gérer un questionnement éthique. Moi, c'est ce que, pour l'instant, avec tout ce qu'on a comme pièce de puzzle. Donc, Marois Risky, il était question d'aller devant la commissaire à l'éthique pour aller demander un avis. Il semblerait que Geneviève Hinz souhaitait procéder autrement, mais pas nécessairement ne pas aller devant la commissaire à l'éthique. Moi, c'est ce que mes sources m'indiquent aussi. Et Pablo Rodriguez, lui, au courant de rien de tout ça. Ouais. Donc, je veux dire, soit que vraiment on y cachait des choses, ou soit que ça ne l'intéressait pas vraiment ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Maintenant, il a raison de dire qu'il n'y a pas eu d'explication en détail. Ça devient difficile pour lui de défendre sa directrice de cabinet, ne sachant pas exactement les détails. Et Marois Risky, dans son message hier, nous dit que c'est un enjeu de ressources humaines. Donc, on comprend effectivement qu'elle refuse de donner des détails et qu'elle considère que ça va être dans le cadre de ce qui est judiciarisé pour l'instant. Je veux revenir sur sa performance à Pablo Rodriguez parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a deux situations en parallèle. Ici, il y a le cas de Geneviève Hinz. sur lequel je trouve qu'il a bien répondu hier. Mais il y a toute la question des textos, des brownies, les votes qu'on aurait supposément achetés. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué là, pour M. Rodriguez, parce que ça aussi, on manque d'informations. Et il faut rappeler que le Parti libéral a envoyé une mise en demeure au Journal de Montréal pour non avoir les sources comme telles, parce que les journalistes ont le droit de protéger leurs sources, mais ce qu'on demande du côté du Parti libéral, c'est comment vous avez authentifié ces textos-là. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas on a rentré des contacts dans nos cells, on s'est envoyé ces messages-là, on a fait une capture, on a envoyé ça à des journalistes, mais c'est pas nécessairement les
qu'est-ce
personnes
qu'on
pense
que... Qu'est-ce qui me dit que c'est pas inventé?
Et voilà.
Là, exactement. Sur le niveau de confiance qu'il avait en Marois Risky, on écoute justement ce qu'il avait à nous dire, puis je veux t'entendre là-dessus par la suite, Antonine.
On fait confiance. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement. Mais Marois, je la connais depuis plus de 10 ans. Geneviève, je ne sais pas combien de temps. Et elle m'a servi comme chef. Elle était ma chef de cabinet à Ottawa durant de nombreuses années, lorsque j'étais ministre. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs, Pierre, à ce moment-là. Et donc, on doit fonctionner sur la base de cette confiance. Maintenant, sur l'utilisation des ressources parlementaires, moi, tout ce qui est dépensé pour mes tournées, moi, c'est... payé, c'est soumis.
Oui, c'est l'année déjà parlé, là. Moi, c'est tout soumis par le Parti libéral. C'est payé par le Parti libéral. Mais je veux revenir sur le lien de confiance. C'est, c'est beau faire confiance au monde. Là. Moi, je te fais super confiance. T'sais. Puis mes patrons me font confiance. Mais n'empêche, ils vont poser une couple de questions, des fois. Là.
La confiance, ça veut pas dire l'aveuglement non plus.
C'est ça. T'sais, ils vont poser une couple de questions. Ouais, comment ça va avec Anto? T'es-tu satisfait? Comment ça va avec Marceau? Ouais, puis t'sais, ils vont poser les mêmes questions à toi qu'ils vont poser à Marceau.
Absolument.
Tu poses des questions pour savoir, OK, t'sais, c'est-tu juste du paraître leur bonne relation ou c'est vrai?
Bien, c'est de la gestion.
C'est ça.
La gestion, ça peut être de la gestion avec un lien de confiance. Ça pose la question d'avoir un chef qui est ce qu'on appelle dans le jargon extra-parlementaire, c'est-à-dire qui n'est pas député.
Ouais.
Et d'avoir un chef parlementaire et un chef de parti qui sont dans deux chaises parallèles, ça pose visiblement des problèmes. Et tout ça conjugué avec une Marois Risky qui a la réputation de ne pas beaucoup aimer se faire dire non, qui aime, qui aime beaucoup tenir son bout, on va dire ça comme ça.
Une femme forte, une femme qui...
Absolument,
c'est
mais qui est très bonne et qui se le fait dire beaucoup aussi. Donc, elle, elle est très confiante dans son rôle. Quand j'ai lu la réponse des avocats de Marois Risky qui a été envoyée à la mise en demeure de Mme Hinz, il y a un mot qui m'a marqué, c'est celui de... insubordination. Dans le fond, ce qu'on reproche à Geneviève Hinz, c'est de l'insubordination. La définition d'insubordination, c'est le refus de se soumettre. Je trouvais que c'était extrêmement parlant comme choix de mots pour Mme Risky. Donc, on a l'impression, et encore une fois, nous spéculons, car on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais que dans le fond, Geneviève Hinz, elle ne faisait pas ce que Marois Risky voulait, et probablement qu'elle se rapportait davantage à M. Rodriguez.
Guys, exactement. Puis t'es de l'insubordination là, pour avoir déjà été gestionnaire pendant une vingtaine d'années. Faut que tu pousses loin en tabarouette pour que moi, en tant que gestionnaire, je sois capable de dire que tu fais de l'insubordination.
Oui,
faut que je t'ai donné une directive claire, puis non seulement tu l'as pas faite, mais tu l'as pas faite consciemment. T'sais, tu l'as pas faite en me regardant les yeux et en me disant « Ah ouais, tu penses que je vais faire ça? »
Geneviève Hinz, c'était pas un pion, là. T'sais, je veux dire, elle est directrice de cabinet. Donc, c'est pas... une, comment dire, quelqu'un qui ne fait qu'exécuter non plus.
C'est ça.
C'est quelqu'un qui gère également. Puis c'est des relations, des fois, de travail qui peuvent être effectivement complexes. Mais ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas s'être soumise, finalement, à Marois Risky.
Non, en effet. Pablo Rodriguez s'est fait challenger par MC Gilles durant, justement, sa prestation. On l'écoute et par la suite, justement, là, j'ai quelques questions pour toi.
Oui, mais Monsieur Rodriguez... vous voulez devenir premier ministre? On s'entend?
Oui.
Dans une campagne électorale?
Je vais devenir premier ministre. On pourra s'en parler par la suite.
Ouais.
Oui, allez-y.
Vous voulez devenir premier ministre, donc vous allez gérer des crises, un. Et deux, vous allez représenter les 8 millions de Québécois. La question que tout le monde se pose en ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de gérer 20 députés libéraux parce que la chicane est pognée dans la cabane, comment vous allez faire pour être premier ministre, gérer des crises?
Merci, M. Gilles, pour la question. C'est très gentil.
Ça fait plaisir.
J'en ai géré énormément de crises tout au cours de ma vie.
Les réponses à la Sam Hamad.
J'ai été élu 6 fois dans une élection générale. J'ai été nommé au cabinet, au conseil des ministres, 4 fois.
Mm-hmm.
Jamais mon intégrité n'a été remise en doute.
Son CV.
Et des défis à l'interne, je gérais au fédéral des ministères de milliards de dollars, dont la culture. Jamais on n'a remis mon intégrité.
Mais on l'a remis en doute.
Non, mais je parle de l'autre.
On remet votre capacité à gérer une crise, ou de
mon incapacité de prendre des décisions ou de diriger, puisque j'ai été nommé et renommé dans des fonctions extrêmement importantes.
Mm-hmm.
Si je n'ai pas été informé, le problème, à mon avis, c'est parce que La personne qui devait m'en informer
n'a pas fait.
Ne l'a pas fait.
Ouais.
Ben, c'est ça, Mais ça revient à ce qu'on disait. Ouais. À un moment donné, comme gestionnaire, il faut que tu sois capable d'aller creuser plus loin et de voir, OK, qu'est-ce qui se passe. Je vais le dire comme ça, tu peux pas être un gestionnaire qui fait juste gérer des crises. Parce que si tu gères juste des crises, t'es un méchant, mauvais gestionnaire parce que tu fais rien pour éviter les crises. T'sais?
Exactement.
Donc, c'est de dire, ouais, Marois m'a pas informé. Ouais, mais c'est à toi aussi à aller chercher. Puis là, quand moi, il revient sur son CV puis son passé, là, mais ça, de la culture, je
roule des
yeux. Me semble que la culture, c'est pas si gros que ça comme ministère.
Ben, à Ottawa, tu sais, c'est. Puis l'autre affaire, puis ça me fait penser un peu, effectivement, à sa maman, c'est un bon parallèle, c'est que. Être ministre puis être chef, c'est deux affaires complètement différentes. Ça n'a pas de lien. Quand tu es ministre, tu fais pas de gestion de caucus, tu fais pas de gestion de personnalité de tes collègues. Tu fais partie des collègues, puis tu fais tes affaires, puis une fois de temps en temps, tu as peut-être un petit conflit par-ci, par-là. Être chef, là, la gestion de ton équipe, c'est énormément crucial. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est un défi de plus quand tu es à l'extérieur de l'Assemblée nationale, bien sûr. Donc, moi, il y a quand même... Parmi les options de ce qui a pu se passer, ça se peut que Mme Risky n'a vraiment donné aucun indice, aucun avertissement, que Mme Hinz non plus n'a pas levé le flag à Pablo Rodriguez pour dire « Hey, je veux juste te dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient là, avec, avec Marois Risky, je le sens pas. » Mais reste qu'il a l'air un peu candide.
Mais si les deux femmes l'ont pas fait, si les deux femmes sont pas allées se confier à Pablo, de
ça
un,
dit quelque chose
ben,
aussi.
C'est ça, de un, ça dit quoi d'énorme? Là,
ben oui.
C'est,
je veux dire, ça c'est... dit qu'il y avait aucune confiance que le chef allait gérer à patente.
Puis de deux, ça emmène aussi une problématique que Pablo aurait dû aller chercher des réponses, même s'il n'en avait pas connaissance. Il doit être au courant de ce qui se passe dans son caucus. Là. Dans la dernière réponse là, sur le fait « Ah, j'ai eu mon passé, je suis même pas sûr qu'il a pu convaincre une mouche qu'il est capable de gérer des crises. »
Non, ben normalement, corrige-moi si je me trompe, Antonine, mais il n'y a pas juste Marois Risky et Geneviève Hinz dans l'équation. Là. Si ça brasse entre les deux, puis là, je vais dropper des noms, un Marc Tanguay, un Frédéric Beauchemin, un André Fortin qui va être son nouveau chef parlementaire, aurait dû lever le flag aussi, aller voir Pablo et dire « Hey Pablo, la situation est intenable » ou « Hey Pablo, il se passe ça ». Fait que si personne parle à Pablo, c'est peut-être parce que personne croit en son leadership aussi.
Ça dit quelque chose sur son leadership, peu importe ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que je me garde toujours une petite option que Marois Risky a gardé ses cartes proches d'elle.
Ouais.
C'est difficile aussi d'imaginer que quelqu'un qui veut vraiment le bien de son équipe procéderait ainsi.
En effet.
Il y a comme un enjeu, mais tu sais, il faut le rappeler aussi que Marois Risky est là à appuyer Pablo Rodriguez dans sa chefferie. Là. Fait qu'on passe vraiment du tout au tout vers on met le feu partout, puis tant pis pour le chef que j'ai appuyé. Je veux juste dire un petit mot sur la forme maintenant.
Oui.
Parce que, bon, on peut trouver qu'il patauge un peu. Ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il a réussi à répondre à quelques éléments, je pense, qui étaient bien, d'autres un peu moins bien, notamment les questions éthiques. Je trouvais qu'il ne se défendait pas très bien, surtout quand il nous dit « Moi, là, je vais défendre le Parti libéral. » Hey, sérieusement, ça fait pas genre « Je vais faire le ménage. » Ça fait « Je vais défendre mon parti.
Hey, » Justement, on écoute le prochain extrait parce qu'on va terminer avec ceci. C'est le Québec, Antonine, qui a besoin de qui?
Du Parti libéral!
Je n'aime pas que mon parti soit sali. On parle du Parti libéral du Québec et le Québec a besoin du Parti libéral du Québec. Vous avez actuellement la CAQ, qui est peut-être, à mes yeux, le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Et l'autre option, qui est le Parti québécois, si vous me permettez, Parti québécois, qui nous amène vers un référendum, nécessairement vers un référendum. Et vous avez le Parti libéral du Québec et le Parti d'économie qui vous assure cette stabilité-là. Et qui sait comment gouverner?
Oui, M. Rodriguez, Maurice Duplessis aurait pu dire on a besoin de l'Union nationale. Ça n'existe plus, puis on a survécu. Là. Il y a d'autres partis qui sont arrivés. Je comprends que vous êtes un libéral, mais entre vous et moi, le Québec a besoin de parti libéral. Peut-être que oui, peut-être que non.
Le Parti libéral, si vous regardez à travers l'histoire, c'est celui qui a octroyé le droit de vote aux femmes. C'est la création du ministère de la Culture,
c'est
le ministère
de l'Éducation.
Sortir de la grande noirceur, c'est le fond
de la génération. Charbonneau, là.
C'est la commission Charbonneau et la corruption
Merci
aussi.
Merci, M. Gilles, pour cette bonne réponse.
Ben non, mais c'est ça quand même. Tu sais, quand on dit, la population n'a pas besoin d'un parti politique quelconque. A besoin de politiciens qui vont s'occuper d'eux autres.
Mais c'est un peu comme s'ils nous disaient arrêtez de nous attaquer, là. Ben vous avez besoin de nous.
Oui.
Puis parce que là, les péquistes veulent faire un référendum.
Ah oui, le méchant référendum.
Est-ce que vous connaissez l'adage? C'est en anglais, vous m'excuserez. Better crooks than separatists. On aime mieux des bandits que des séparatistes. Moi, c'est ça qui me venait en tête avec cette ligne de défense-là. Ce n'est pas une bonne ligne. J'ai l'impression que tu vas défendre ton parti envers et contre tous, et j'ai pas l'impression que tu vas vraiment faire le ménage.
D'ailleurs, MC Gilles est revenu, puis là, j'ai pas l'extrait, mais il est revenu là-dessus en disant hey, « quand vous dites que les gens sont venus au Parti libéral, ça me fait peur, moi. »
Les donateurs sont venus.
C'est les donateurs de qui,
tous?
Là? Cellino Zambito qui est de retour dans les parages.
Ben, c'est ça. Fait que ça, ce bout-là, je pense qu'il l'a vraiment raté. Puis, de manière générale aussi, dans son ton, son attitude. Moi, c'est ça, c'est une passion dans ma vie, les communications. Ben oui. Puis, tout passe aussi par le langage du corps. T'as beau avoir les meilleures lignes du monde, si tu les dis en étant énervé, essoufflé,
ces mains,
les mains
là,
qui partent. Là, il replaçait tout le temps son verre d'eau. Il avait l'air un peu
les mains, autant de conférences de presse qu'hier. Là, les mains vont dans tous les sens.
Il a chaud. Il était soufflé.
C'est
là,
un manque de
vendredi,
contrôle.
Vendredi, il parlait tellement vite qu'il s'enfargeait évidemment dans des mots. Puis là, il venait jouer rouge parce qu'il venait de s'enfarger dans un mot. Hey, calme-toi, tu n'as pas l'air en contrôle. Puis ça, je trouve que ça laisse une très, très mauvaise impression aussi à la suite de ces entrevues. Un qui a mieux performé hier, tout le monde en parle, on en parle rapidement, Vincent Marissard.
Oui,
donc
vraiment.
Ça, c'est l'autre saga de la fin de semaine.
La girouette!
La girouette,
le
magazineux.
Une chance qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale,
non, on
n'a pas
le droit
de dire ça.
D'ailleurs, un mot qui risque d'être interdit très rapidement, bientôt à l'Assemblée nationale, brownie. Je pense qu'effectivement, on peut se dire que ça va être interdit. Girouette, c'est déjà interdit. Oh. Donc, Vincent Marissard, qui a été pris de court par son propre parti, il semblerait qu'il a été pogné par son agenda, parce qu'il y avait des petits meetings avec Paul Saint-Pierre Plamondon, on inscrit à son agenda, puis il y a quelqu'un qui avait accès à son agenda qui l'a stoulé. Et il a été exclu avant qu'il puisse annoncer. Puis c'est ça qu'il nous a raconté hier, à Tout le monde en parle, c'est qu'il aurait voulu faire les choses différemment. Il aurait voulu parler au caucus et faire sa conférence de presse pour expliquer pourquoi il n'est plus capable de faire partie de cette formation politique-là. Les députés solidaires depuis 2018, Vincent Marissal. Et il dit que, puis je trouve qu'il l'a bien expliqué, puis il a bien réussi à revirer les affaires de bord. Parce que quand on a appris qu'il était exclu parce qu'il magasinait un petit peu du côté du PQ, les gens se sont dit, voyons, il mange de tout, lui.
Il voulait aller avec les libéraux de Justin Trudeau.
Il voulait se présenter à Montréal.
Ben, c'est ça.
Montréal.
Là, après ça, il y a du souverainisme, mais je vais aller à QS parce que le PQ est en train de tomber. Puis là, quand QS est en train de tomber, il disait, je pourrais aller à la mairie de Montréal. Puis là, finalement, vu que le PQ est populaire, il va aller au PQ.
C'était l'impression que ça donnait. Mais après son entrevue, honnêtement, puis je le vois dans les commentaires sur les médias sociaux, les gens comprennent que tu puisses trouver ça difficile de faire partie de Québec solidaire, mouture actuelle.
Oui, puis il y a du monde qui disent « Ouais, mais Québec solidaire, ça a toujours été de gauche, tout. » Je comprends, là. Mais depuis le départ en tant que co-chef de Gabriel Nadeau-Dubois, ça reste que tout le monde remarque là, le virage que Québec solidaire a pris. Ce n'est plus le même parti. C'est plus le parti que Gabriel Nadeau-Dubois essayait de recentraliser, de rendre plus crédible. Ouais. Au contraire, ça prend la tendance complètement à l'opposé. Ouais.
Donc, ça paraît d'un sondage, d'ailleurs.
Ben, c'est ça, exact. Ben, oui. Donc, je peux comprendre. Oui. Probablement qu'il y a de l'opportunité dans l'histoire, mais je peux comprendre de dire « j'ai pas changé en tant que personne ».
Mon parti a changé.
Je pense
clairement,
que c'est ça,
on vient d'élire comme co-porte-parole Sol Zanetti qui est appuyé par Catherine Dorion et Émilise Lessard-Terrien.
Ben là, par exemple, Vincent Marissal a appuyé Émilise Lessard-Terrien à la dernière... T'sais, en tout cas, bref, il peut avoir certains illogismes.
J'allais dire, parmi deux choses moi que j'ai aimées, sa sortie sur les usagers de la STM. Parce qu'il a dit, hey, écoutez, là, moi, là, le nombre de courriels que j'ai reçus d'usagers qui disaient, vous nous avez laissé tomber, puis j'étais d'accord avec eux autres.
Parce qu'il faut le rappeler, là, l'Assemblée nationale, tous les partis étaient d'accord pour mettre fin à la grève des transports collectifs à Montréal, et QS a décidé de s'opposer, ce qui a fait en sorte que la grève s'est poursuivie par la suite. Vincent Marissal est en désaccord avec cette décision-là. Il a nommé aussi deux autres exemples. Bon, c'est sûr que parler toujours de Gaza tout le temps, ça, à un moment donné, je pense que c'est un petit peu loin des préoccupations des gens, même si c'est important ce qui se passe à Gaza. Et là, il est revenu aussi sur la crise avec Haroun Bouazi, député de Maurice Richard, qui avait traité tout le monde de raciste à l'Assemblée nationale, ni plus ni moins. Et il a dit que ça l'avait énormément énervé.
Exactement. On écoute l'extrait.
Tout. La perception qu'il y a du racisme à tous les coins de tous les corridors de l'Assemblée nationale, que mes 124 collègues, bon, 123 si j'enlève Haroun, j'imagine, ils sont tous potentiellement coupables d'une forme ou une autre de racisme ou de colonialisme.
Vous n'avez pas aimé ça?
J'ai pas aimé ça. En plus, rappelez-vous, il y a eu cette entrevue après chez Patrick Masbourian, ici en haut, dans laquelle il accusait éhontément et erronément deux ministres, Christian Dubé et Lionel Carman, de choses fausses complètement. Ça m'a irrité. C'est pas comme ça que je veux faire de la politique. C'est pas comme ça que je fais de la politique. Ça m'a vraiment irrité. Et surtout, le fait après qu'il n'y a pas eu de rétractation réelle. Mm-hmm. Ça a même continué. Puis moi, dès le début de cette crise-là, Guilla, je l'ai dit très clairement à mes collègues du caucus, n'importe quel parti normal le mettrait dehors.
Et ça n'a pas été fait.
Oui, non, c'est moi qui me suis fait mettre dehors.
Il a tellement raison. N'importe quel parti normal aurait mis Haroun Boisy dehors. Puis moi, quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, il a donné un petit congé. Il va arriver après le temps des fêtes. Il va dire, OK, c'est beau, je démissionne, je m'en vais. On va lui permettre de partir sur une démission plutôt qu'une exclusion. Ben non, tabarouette, on l'a ramené dans les rangs, puis il siège encore.
Oui, puis il y a des dossiers importants, hein, M. Boisy. Et c'est vrai que c'est jamais excusé. Honnêtement, là-dessus, je le crois, Vincent Marissal. Et
vraiment.
Il n'est pas le seul député solidaire qui avait un malaise. Il y a eu des discussions très animées parmi les députés de Québec solidaire. Je pense notamment à Christine Labrie.
Ben, Christine Labrie, ça ne va pas pour rien non plus. Là. C'est juste qu'elle le fait avec moins de fracas que Vincent Marissal.
Exact.
Mais c'est le même principe. Puis Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit quand il a décidé de quitter son poste de co-porte-parole.
Ouais.
La gang de militantistes très, très, très à gauche de Québec solidaire a eu sa peau. Là.
Écoute, un exemple que Christine Labrie avait donné qui est parlant, elle a dit « Je m'en vais aider, je suis dans un organisme communautaire puis on va faire des paniers de Noël, puis les gens nous écrivent en dessous des publications. Comment ça se fait que vous faites rien pour Gaza pendant ce temps-là? » Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, je comprends que ça peut devenir épuisant pour certains députés qui sont là depuis un bout de temps puis qui ont peut-être cru aussi au recentrage que Gabriel Nadeau-Dubois voulait faire. Bon, maintenant, pour Vincent Marissal, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que le PQ va le prendre comme député? Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est une bonne idée pour le PQ parce que prendre des transfuges, c'est toujours un couteau à double tranchant. Par contre, hier, Marissal, je m'excuse, mais il a fait une sacrée bonne job pour le PQ. Il a défendu le PQ, il a défendu Paul Saint-Pierre Plamondon puis il a planté QS. Ça, là, c'est du pain béni pour PQ. Moi, si j'étais le PQ, je m'en servirais, entre guillemets, comme indépendant parce que ça y fait une parole anti-QS, mais neutre, sans intérêt partisan. Quitte après ça à lui donner un rôle important peut-être dans un gouvernement.
Il sera chef de cabinet quelque part.
Oui, délégué du Québec à Paris, quelque chose comme ça.
Pas obligé de mettre sa face sur une pancarte électorale pour faire partie de la grande famille péquiste. Antonine Iaccarini, c'est toujours un bonheur. Claude André qui écrit, n'oubliez pas que Manon Massé aussi quitte. Et c'est vrai, elle quitte pas pour elle non plus. Là.
Non,
ils sont tannés.
Il y en a une couple qui me semble bien fatiguée de militer dans leur propre parti.
Ils sont fatigués de ce gang-là qui veut là, le Québec complètement à gauche puis qui est pas capable de faire de compromis.
Non, c'est ça le problème, parce que la politique, c'est des compromis.
Ben oui, c'est
puis clair. Malheureusement, c'est le parti qui, normalement, devrait défendre la classe un peu moins aisée.
Les travailleurs.
Les travailleurs et tout. Ouais. Puis au lieu de ça, ils se font... ils embarquent dans des lubies idéologiques au lieu de vraiment aller à la défense de leur propre monde.
Tu sais ce que tu viens de dire comme texto, puis je termine là-dessus. Là, je fais des banques alimentaires, mais je me fais dire, tu fais quoi pour Gaza? Ouais, mais c'est à cause... Je suis en train de nourrir les plus défavorisés de notre société.
Oui, mais il y a un génocide, Jeff.
Ouais, mais
il y a un génocide, tu comprends-tu? Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Hey, je m'excuse, je finis là-dessus.
Oui, mais attends, on va fermer la bouchée généreuse.
Ah, ben,
puis on va tout envoyer à Gaza.
À Gaza, exactement. Dernier potin en terminant, je connais des gens qui travaillent dans des ambassades puis des consulats. Puis il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait un nouveau représentant consulaire qui arrivait d'un autre pays que je nommerais pas. Et la personne qui rencontrait Ruba Gazal et elle n'a parlé que de Gaza. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu rencontres, tu représentes le Québec aussi comme parti d'opposition. Puis la seule affaire qu'elle avait en bouche, c'était ça. Voilà.
C'est ça, exactement. Donc, tu fais pas de la politique internationale, tu peux faire de la politique aussi pour ta propre province quand tu es élu par des jeunes de la province de Québec.
Tu peux parler de Gaza, mais peut-être aussi tu peux juste parler de, des gens d'ici aussi. Là.
En effet. Antonin Iaccarini, toujours un bonheur. Après la courte pause à Boulevard 102, on va faire le tour de l'actualité avec Mathias Turcotte. Et je vous présente également des extraits d'une entrevue que j'ai faite avec Véronique Thibault, une mère de famille. Sa fille Jasmine a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'elle se bat contre le système pour que sa fille soit soignée au poumon. C'est une histoire invraisemblable. Les 12 travaux d'Astérix, c'est rien à côté de l'histoire de Véronique Thibault. Je vous présente ça après cette courte pause sur Boulevard 101.